Donc, Denis.
Très bien, merci beaucoup Isabelle et merci à tous les intervenants. Donc je propose maintenant effectivement qu'on ait un petit temps de discussion. Alors j'ai de mon côté peut-être essayé de synthétiser quelques-unes des questions qui figuraient dans le chat et je vais vous adresser, on va faire deux ou trois allers-retours et puis on rajoutera les questions qui figurent dans le ensuite qui nous arrivent. Donc peut-être une question à adresser à alors, sur les questions de trame verte et bleue et de solutions fondées sur la nature, on voit bien que les concepts sont un peu cousins. Donc, peut-être d'une part, on pourrait dire que SFN, c'est plutôt le concept d'ingénierie et qui a vocation à essayer de traduire concrètement dans le matériel ce que sont ces voies. Et puis, peut-être trame verte et bleue, c'est peut-être plus un instrument d'action publique. Qui essaie justement de traduire dans les textes ces aspects-là. Alors, ma question, c'était plutôt sur la question des trames vertes et bleues. Une critique qui est adressée, c'est qu'elles travaillent un peu en creux. Alors, c'est vrai, quand on voit des cartographies, parfois, on voit bien que les trames vertes et bleues, elles se dessinent en creux de l'existant et des infrastructures. Alors, qu'est-ce que vous répondez à est-ce que cette critique a un sens, selon vous, tel que vous l'avez vu dans les documents d'urbanisme et dans les SCOT, par exemple.
Pardon. Oui, je pense qu'elle a un sens effectivement. Et mon hypothèse majeure, c'est le fait que on ait choisi d'institutionnaliser les trames vertes et bleues à travers la planification, qui fait qu'on cible directement une catégorie de métiers qui sont les urbanistes. Alors moi, j'étais maître de conférence avant dans un institut d'urbanisme, donc je connais bien cette profession-là. Et on voit bien que les enjeux qui sont développés par les services de l'urbanisme sont davantage des enjeux socio-économiques de développement urbain et bien moins de prise en compte de la dimension environnementale. Donc, les formations changent. On voit que la culture environnementale s'imprègne progressivement des urbanistes. Mais cette approche écologique, elle ne va pas de soi pour les urbanistes. Et le fait que l'État dise, eh bien, c'est dans les documents d'urbanisme qu'il faut mettre en place une politique trame verte et bleue, ça crée une certaine forme de crispation. Puisque ces documents-là eh bien, agrègent un certain nombre de thématiques qui fait qu'à la fin, les services urbains eh bien, délèguent à des bureaux d'études la mise en place, en tout cas le fait de définir ces TVB. Donc ça, c'est le côté métier, mais il ne faut pas non plus évincer de la réflexion les élus. On se rend bien compte à l'échelle locale que pour les élus, le fait de définir une trame verte et bleue peut avoir des conséquences à l'avenir sur le fait de pouvoir contraindre l'urbanisation future de certains espaces. Et donc, il y a une volonté d'être relativement succinct dans cette définition des TVB qui, pour la plupart du temps, finalement, recense les différents dispositifs environnementaux déjà existants, donc tout ce qui est Natura 2000, SNIEF, Ramsar, etc. Et finalement, en termes de planification, on est peu proactif dans le fait de rétablir ces continuités écologiques dans les espaces sous tension. Et donc, on a une inscription à minima des trames vertes et bleues d'un point de vue réglementaire.
Merci, merci Laure. Alors, j'avais une autre question que j'adresserai à Johanna et en même temps à Cécile et Philippe. Alors, on a bien vu la question de l'appropriation, alors que ce soit par les élus, mais aussi par les populations, était très importante. Alors, vous avez évoqué dans les deux présentations la notion de disservice. Donc, j'ai compris que, bien, évidemment, la question, c'est la balance entre les gains et les potentiels désagréments, hein, de ces solutions-là. On connaît bien le fait que ben, certaines zones d'expansion de crues qui sont construites pour protéger contre les crues certaines populations, ben, elles peuvent porter des désagréments. On voit dans les écoquartiers aussi ben, que pour faire des îlots de fraîcheur, ben, on a le contre le contretemps des moustiques, voire d'autres nuisibles qui se répandent. On a même vu des populations se mobiliser pour qu'on fasse des opérations de démoustication chimique. Donc, on voit bien que ces paradoxes-là sont très forts. Et puis aussi, un autre point, peut-être le plus fort, c'est que les lieux des NBS ou des SFN ne sont pas certes souvent les lieux des bénéfices. Si on parle des zones d'expansion de crues, on les développe dans certaines zones, mais les bénéficiaires, c'est des zones denses, et ça crée donc des coûts sociaux inégaux pour des populations. Ça, c'est le premier point. Je voulais avoir votre avis un peu sur ça, sur ces inégalités de coûts sociaux que peuvent avoir ces solutions fondées sur la nature et le résultat sur l'appropriation. Et puis, le fait que ça produit, on l'a bien vu dans la dernière intervention, aussi ces SFN, elles produisent une nature apprivoisée, encadrée, qui serait justement, qui aurait toutes les vertus et dont on aurait gommé les désagréments. Donc, est-ce que vous voyez ces éléments dans vos travaux, à la fois dans l'enquête de Cécile et Philippe et puis dans le travail de Johanna? Alors, peut-être Johanna, vous commencez.
Oui, merci Denis. Alors, sur ces questions des services, moi je pense que ben, peut-être que ce qu'on peut dire effectivement, c'est que ces SFN, comme d'autres, finalement d'autres dispositifs, comme les zones d'expansion de crues, comme les infrastructures vertes, effectivement elles produisent des services et puis elles peuvent générer des aménités plus négatives auprès des riverains, mais pas uniquement, hein. Ça peut être aussi finalement des conflits entre différents usages d'un même territoire, hein. Finalement des services qui seraient en compétition, hein, sur des SFN sur un même territoire. Et donc ça me paraît des choses qui sont aussi intéressantes à les questionner. Mais effectivement, le fait de se dire finalement ces SFN, elles sont vues par les services qu'elles produisent, mais aussi par les coûts et par les désagréments qu'elles peuvent effectivement générer auprès de certains riverains. Donc, comme tu l'as dit, ça peut être des riverains qui sont juste présents au bord, enfin sur ces SFN ou proches de ces SFN-là, mais ça peut être effectivement finalement des riverains qui sont, enfin des acteurs qui ne sont pas forcément situés juste à ce niveau-là, puisque c'est SFN. Enfin, si on, pour être un peu plus concret, peut-être si on prend par exemple le parc urbain qui est créé ou qui est, disons, qu'on préserve pour une question d'infiltration, une question de génération d'une biodiversité en ville, qu'est-ce qu'il va produire? Ben, il va produire aussi potentiellement un manque de création de logements, hein, dans une ville. Donc finalement, ces 10 services, ça peut être aussi, enfin, le coût que ça va avoir aussi pour une ville, pour une certaine population qui n'aura peut-être pas accès aux services logements. Donc voilà, je pense que ces questions de 10 services, elles sont importantes et elles peuvent être finalement prises en charge de manière très très différente.
Alors Cécile et Philippe.
Oui, alors moi je peux compléter. Effectivement, c'était un point qui nous a. C'est un des points qui a motivé l'enquête qu'on a mise en place, en fait. Mmh. Essayer de comprendre cette répartition aussi bien des bénéfices perçus que des effets négatifs. Alors là, on parle plus des. Nous, on a parlé plutôt d'effets négatifs parce que ça englobe les 10 services, c'est un peu plus large. On a englobé un peu le développement urbain dans nos scénarios et les contraintes qui pouvaient s'y poser. Donc. Les 10 services sont directement liés en général aux écosystèmes eux-mêmes. Donc, ça peut être par exemple les moustiques, voilà, effectivement. Mais nous, les effets négatifs vont un peu au-delà du fait que on va supprimer des places de parking en ville, par exemple. Ça, c'est pas un 10 services, c'est pas l'écosystème qui produit, hein, une aménité négative, c'est bien le fait de retirer des places de parking. Donc, c'est un peu différent. Mais ce qu'on a observé, en tout cas, dans l'enquête, et ce qui est intéressant, c'est qu'on ça met en évidence certaines inégalités à l'échelle d'un bassin versant entre les habitants, notamment très urbains, et les habitants qui sont plus éloignés. Alors, on n'est pas dans la caricature complète parce qu'il y a toute une diversité de points de vue. Mais en tout cas, il y a certaines polarités qui ressortent. Et notamment, ce qui ressort très bien, c'est le fait que d'introduire de la nature en ville, de réduire les espaces de circulation routière, par exemple, ou diminuer les places de parking, ça va impacter des populations qui sont plus distantes, qui utilisent la voiture pour aller travailler et qui ont besoin finalement de pouvoir stationner en ville ou de pouvoir circuler en ville et qui sont sensibles au temps de déplacement. Ça, on l'a observé plutôt sur la population qui était distante. À l'inverse, on va avoir des effets négatifs qui ressortent comme plus importants pour les populations de centre-ville dès lors qu'on va parler de densification des quartiers existants. Voilà, ça peut être des populations qui sont attachées à l'aspect, à la valeur historique et culturelle des quartiers et qui craignent, du fait du renouvellement urbain, de perdre ça et de se retrouver dans des environnements plus denses. Et ça, c'est clairement les habitants plutôt des quartiers urbains qui le mentionnent. Voilà, donc on observe ça, effectivement.
Philippe, vous voulez ajouter quelque chose ?
Peut-être un complément, mais c'est très lié à ce que Cécile disait. Je pense que quand on a planifié l'enquête, au départ, les premières remarques qu'on a eues des acteurs de la métropole, ça a été de dire, mais si vous leur demandez plus de verre, les gens vont toujours dire oui, plus de verre. C'est-à-dire que pour nous, il a été important de vraiment mettre en évidence, surtout dans la première partie, avant de faire révéler la valeur qu'accordent les citoyens à ce type de mesures, de bien les faire réfléchir sur ces effets positifs et ces effets négatifs pour qu'on puisse estimer de façon correcte en fait, la valeur qui s'accorde réellement à ce type d'infrastructure. Et juste une remarque, je me rappelle que ce souci a été particulièrement fort parce qu'on a réalisé l'enquête dans plein contexte gilets jaunes où vraiment cette question de la contestation vis-à-vis des mobilités était très présente et on s'attendait à se faire même assez mal recevoir dans certains contexte, et donc on a vraiment voulu insister sur cet aspect-là.
Alors peut-être une question pour Sandrine, donc une qui figurait dans le chat, mais qui peut-être renvoie aussi à quelque chose qui fait écho à ce que j'avais repéré moi, dans votre intervention, c'est le rôle, la place des riverains, et aussi la place des chercheurs dans le fait que les élus ou les collectivités se retrouvent avec ces nouvelles compétences qui culturellement quand même ne sont pas les leurs. Je pense qu'on ne dit pas trop de bêtises en disant que les autorités organisatrices ou les collectivités elles sont héritières d'une culture plutôt technique et que leurs références culturelles ou professionnelles elles sont peut-être assez éloignées des SFN. Donc en quoi est-ce que les relations avec les riverains voir les liens avec la recherche, leur fournissent des références, leur fournissent même des incitations à bouger de leur socle culturel plus technique habituel. Donc, d'où viennent, est-ce que ces influences jouent via les riverains et la recherche et comment ça se produit ?
Oui, c'est clair que tous les éléments qui peuvent être apportés par les études viennent alimenter en tout cas les réflexions ou viennent faire prendre conscience en tout cas aux politiques qu'il y a un intérêt, il y a un volet sociologique à ne pas écarter et ça c'est vrai de plus en plus en fait hein, cette prise de conscience elle se fait de plus en plus d'ailleurs on l'a bien vu derrière les dernières élections ont bien montré que voilà il y avait quand même une volonté un peu plus forte d'aller vers de la démocratie participative, etc. Donc voilà, il y a un vrai besoin en tout cas de s'appuyer sur les études scientifiques et sur le volet sociologique. Voilà, c'est incontournable.
Merci. Alors je relaye une question qui figure dans le chat, c'est une question de Cathy. Est-ce qu'il y a des regroupements GPU et GMAPI dans des structures de type syndicat ? Et aussi, on vous demande le rôle des CAUE sur le lien entre urbanisme et environnement. Donc, ça veut dire que vous avez montré ce schéma avec ces nombreuses structures. Est-ce qu'elles arrivent à intégrer des dimensions un peu différentes ?
Oui, alors pour répondre à la question de Cathy, oui, il y a ça existe. Hein, les syndicats peuvent intégrer la partie GPU et GMAPU. Hein, il y a des transferts qui sont tout à fait possibles Et ça existe. Après, en ce qui concerne les CAUE, j'avoue que je ne sais pas trop, en fait. c'est plutôt pendant l'élaboration, j'ai envie de dire, des SCOT. C'est peut-être plus Laure qui est intervenue au début, qui pourrait apporter une réponse à cette question. Mais je pense qu'en tout cas, il y a vraiment un intérêt à créer du lien et à utiliser tous les outils. Encore faut-il les connaître, encore faut-il essayer de savoir comment justement on crée ce lien. Un point que je n'ai pas mentionné, à travers les différents projets qui sont conduits, on constate qu'il y a souvent un chef d'orchestre, en fait. C'est ça qui fait aussi qui va permettre de créer ce lien et cette co-construction. Et donc, ce chef d'orchestre, peu importe qui il est exactement, mais il est identifié et justement, il permet de faire ce lien avec les questions d'urbanisme, d'environnement, voilà, des questions plus spécifiques, etc. C'est un des points qui nous était remonté également.
Très bien, merci. Alors, peut-être j'ouvre la discussion. Alors, Isabelle, peut-être, et d'autres, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez intervenir en ligne, c'est aussi bien que par le chat de conversation.
Juste pour rebondir sur cette question des CAUE, à vrai dire, c'est ce moment, la TVB, après les lois Grenelle, donc des années 2010 à 2016-2017, je dirais, avec notamment la réalisation en région des SRCE et puis après la traduction dans les SCOT et PLU, a fait qu'il y a eu une énorme émulation dans différents corps et différentes structures sur justement cette réflexion autour des TVB, notamment parce que la loi donnait explicitement la responsabilité aux services de l'URBA de prendre en compte cette question de trame verte et bleue. Donc effectivement, les CAUE se sont saisis de ce champ thématique à l'échelle départementale, mais également les PNR, les agences d'urbanisme, la Fédération des agences d'urbanisme, etc. Ce qui fait qu'il y a eu plusieurs groupements dans différentes sphères qui se sont saisis de cette politique TVB et qui ont généré des productions et donc généré une réflexion. Et aujourd'hui, il y a un centre de ressources des trames vertes et bleues qui couvre différents niveaux d'échelle, du national au local, avec un nombre assez impressionnant de contributions qui nous montre donc que ça a généré une émulation dans un large pan de l'aménagement.
Très bien, merci. Alors, j'invite ceux qui souhaitent peut-être à poser leurs questions.
Philippe Lecointe, moi, je voulais rebondir sur la conclusion de Laure sur cette question de passer d'une approche plus cartographique à une approche plus expérimentale. Donc, je voulais en avoir un peu mieux comprendre l'idée qui était derrière ça. Et, moi, la réaction que ça m'a
suscité
un peu inverse, c'est-à-dire que dans le domaine des SFN, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le domaine de l'expérimentation pilote et pas encore assez dans des approches plus programmatiques, généralisées. Et donc, voilà, je voulais...
Alors, peut-être que ma conclusion était un petit peu polémique, mais le but de cette conclusion, c'était de montrer qu'en fait, l'approche top-down qu'il y a eu... De mise en place de cette politique TVB, donc avec ces schémas régionaux qui devaient se traduire dans les SCOT et in fine se retrouver dans les PLU, faisait qu'on avait une façon assez normative de penser la trame verte et bleue, même si une gestion programmatique à l'échelle intercommunale est nécessaire pour pouvoir sortir effectivement de micro-initiatives isolées et pas forcément mises en relation les unes avec les autres. Ce que je voulais dire, c'est que cette politique normative top-down avait rencontré une faible adhésion à l'échelle locale et alors même que différentes initiatives pouvaient se réclamer de la trame verte et bleue ou de la SFN ou des SFN parce qu'on agissait sur la question de la biodiversité, mais on n'agissait pas d'un point de vue réglementaire tel qu'elle l'avait pensé la loi. Et donc, ce que je voulais dire à travers cette conclusion, c'est qu'il fallait rester attentif aux initiatives locales qui permettaient de pouvoir agir sur cette question de la biodiversité, mais aussi des bénéfices sociaux que pouvait recouvrir cette notion de trame verte et bleue pour montrer comment ces initiatives pouvaient être force de proposition et convaincre d'autres acteurs locaux et donc se disséminer et entre guillemets contaminer un plus large public d'acteurs.
Bon, très bien, merci beaucoup. Je pense que je vais remercier les intervenants et aussi Isabelle qui a co-animé avec moi. Et je vais redonner la parole à Corinne pour qu'elle nous pour enchaîner avec la pause et puis la session de cet après-midi. Merci encore.
Bien oui, merci Denis, merci Isabelle pour l'animation de cet atelier. Merci à tous les intervenants et tous les participants pour les questions intéressantes qui ont été posées. Donc effectivement, on va faire une pause là. Donc bon appétit à tous et puis on se retrouve à 14h pour l'atelier 3 sur la gestion patrimoniale.
Merci.
Merci.
Corinne ?
Oui, je suis toujours là.
Juste, je ne pourrais pas assister cet après-midi, j'ai 4 heures de cours.
Ah oui, effectivement, oui, je comprends.
Voilà, mais bon, je veux vous remercier pour l'invitation et j'étais très heureuse de participer à la journée d'hier et ce matin.
Ben, très bien, ben, merci à vous hein, parce que c'était très intéressant la présentation. Puis ben, ça a suscité quand même beaucoup de questions et d'échanges. Donc bon, c'était très intéressant. Merci encore à vous et bon courage pour cet après-midi.
Oui, et donc il va y avoir des actes ou à l'issue de ces deux journées d'études ou...
Alors, à minima, on va faire une compilation de toutes les présentations, donc de toutes les planches qui auront été proposées, et on va essayer de faire des synthèses par atelier. Donc, on a enregistré l'ensemble des sessions, et on va voir comment on valorise ça, si on met aussi l'enregistrement en ligne. On va voir, quoi. On n'est pas encore, on va se réunir au niveau du comité scientifique, comme on a été un petit peu chamboulé dans notre façon de faire avec le passage en séminaire à distance. Voilà, on n'a pas encore pris la décision, mais il y aura des éléments qui seront diffusés à l'ensemble des participants. En tout cas.
Merci beaucoup.
Merci à vous, à bientôt, au revoir.
Au revoir.
Corinne ?
Oui.
Oui, excuse-moi de te déranger deux secondes. Pour cet après-midi,
oui.
Là, on reste connecté ou il faut quitter ?
Alors, je pense que vous pouvez quitter et revenir sur la session. Moi, par contre, je vais rester parce que Samy m'a passé l'animation et donc je vais rester connectée, mais normalement vous pouvez, comme vous avez fait hier soir j'imagine, vous déconnecter vous... enfin moi c'est ce que j'ai fait hier soir en fait.
Enfin, moi de toute façon c'est pour un peu plus d'une heure, c'est pas gênant de rester connecté.
Oui mais... voilà, c'est l'un ou l'autre quoi, il y a peu importe hein.
Moi je vais rester parce que comme Zoom me fait des choses bizarres de temps en temps.
Ok,
je vais rester connectée.
Je peux tester tout de suite le partage d'écran.
Allez vas-y, alors attends je vais, oui vas-y, je vais finir l'enregistrement après, vas-y.
Allez, bon appétit.
Bon appétit, Kat, tout à l'heure. Pour le moment, je ne vois pas ton partage d'écran, Yves.
Alors, elle me dit l'intégralité de votre écran. Oui, c'est ça, partage.
Ah, ça y est, ça bouge. Ouais, super.
C'est bon ?
Oui, oui, ouais, c'est bon.
Okay. Donc, on a prévu 3 diapos pour introduire.
Oui, super.
Le déroulement, et puis donc celle que tu as faite avec les 4 interventions.
Voilà. Et donc, Marc ne m'a pas envoyé vignette, donc je pense qu'on va rester là. C'est une image qui est issue, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est issue de son projet RGC4. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. Quoi, chez...
Oui, okay. Donc, tout va bien.
Voilà. Allez, bon, moi je vais essayer.
Bon, ben, tout à l'heure, je vais.
Eh bien oui, à tout à l'heure, bon appétit.
Merci, bon appétit à toi aussi.
Merci. Alors,